Salut à tous et à toutes, merci d'être là, bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, un rapport dévastateur de l'organisme Amnesty International accuse Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza.
C'est une situation sanitaire, humanitaire, qui, de l'avis de plusieurs, dont Amnesty, donc, peut être associée donc, à une situation de génocide. Alors, faut prendre ce rapport au sérieux.
On souligne l'œuvre de feu le père Maurice Leblanc, un Acadien ouvert sur le monde.
Qui a aidé beaucoup, c'est le fait que le père Maurice avait rédigé un journal sur ses activités. Il avait commencé ça en 1956. Il écrivait tous les jours jusqu'au matin de sa mort.
Le maire de Québec s'impatiente face à l'opposition qui lui reproche son inaction dans le dossier des locaux commerciaux qui se vident.
Toujours dresser un portrait négatif, ça finit par créer un climat qui est très défavorable à l'économie de Saint-Roch.
La plus longue patinoire naturelle au monde pourrait rouvrir dès la fin janvier à Ottawa. Aiguisez vos patins.
Madame Nature est vraiment au rendez-vous. C'est sûr qu'on est fébrile avec les deux dernières années qu'on vient de vivre.
De la Basse-Côte-Nord à la Finlande, la cueillette de petits fruits au centre de deux œuvres artistiques.
On parlait pas juste de cueillette avec les gens, on parlait de l'histoire, on parlait de leur enfance, on parlait des îles, du futur, puis c'est quoi leur lien au territoire puis à la Basse-Côte-Nord.
Ceci est plus encore à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Merci d'être là. Il y a toute l'équipe de l'initiative de journalisme local qui nous accompagne cette année. L'organisme Amnesty International vient de publier un rapport dévastateur sur ce qui se trame à Gaza et accuse Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza depuis les événements du 7 octobre. Thierry Lapointe, professeur à l'Université de Saint-Boniface et expert en politique internationale, estime que ce rapport d'Amnesty International doit être pris au sérieux. Il espère même que ce document incitera les États les mieux positionnés à faire pression sur Israël. Même son cloche, évidemment, du côté de France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone, qui souligne l'urgence d'une intervention internationale pour stopper cette violence, suspendre les ventes d'armes à Israël et à traduire les responsables en justice. Amnesty International appelle également un soutien humanitaire immédiat pour mettre fin à la crise. Gaël Mpoyo à Winnipeg, Manitoba, nous a ramené ce qui suit.
Amnesty International affirme dans un document publié le 5 décembre que les preuves recueillies montrent des attaques systématiques contre les civils, des destructions massives de logements et d'infrastructures essentielles, ainsi que des restrictions sévères et inhumaines. Ces actes, selon l'organisation, s'inscrivent dans une volonté délibérée des destructions correspondant aux critères de génocide. France, Isabelle Langlois est directrice générale d'Amnesty International Canada francophone.
Alors, juste avant les fêtes, en début décembre, donc Amnesty a publié un rapport de près de 300 pages. C'est un rapport qui est très exhaustif, qui fait suite à une enquête de 9 mois entre le 7 octobre 2023 et juillet 2024. À la lumière de ce que nous dit la Convention sur la répression, la prévention et la répression du crime de génocide, Amnesty est arrivé à la conclusion qu'il y avait bel et bien un génocide en cours dans la bande de Gaza et qu'il y avait en fait 3 des 5 crimes de génocide reconnus par la Convention qui étaient perpétrés dans la bande de Gaza. Et qu'il y avait effectivement d'abord une intention donc d'anéantir, d'attenter à une population spécifique, ici les Palestiniens et les Palestiniennes, et d'anéantir cette population, ce groupe-là en particulier.
Quelles sont, selon vous, les responsabilités de gouvernements étrangers, y compris le Canada, dans cette crise, selon Amnesty?
Ben d'abord, les gouvernements étrangers doivent tout faire. C'est pour ça qu'on a créé les Nations Unies. C'est pour ça qu'en 48, on a signé cette convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. On s'est dit plus jamais ça. Et les États comme le Canada ont la responsabilité de tout faire ce qui est en leur pouvoir pour arrêter et du moins ne pas contribuer à ce que ces crimes soient perpétrée. Et ça veut dire qu'à partir du moment où un État ou les États sont informés qu'il y a une possibilité qu'il y ait un crime, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le crime de génocide qui soit commis dans ce cas-ci, il faut qu'un État comme le Canada arrête tout transfert d'armes, tout transfert de matériel militaire, y compris le matériel militaire non létal, y compris le transfert indirect. Le Canada continue à transférer du matériel militaire, de l'armement, via les États-Unis, par exemple.
Alors que certains soutiennent les conclusions d'Amnesty, d'autres, notamment des alliés d'Israël, rejettent les rapports, qualifiant ces conclusions de biaisées. Thierry Lapointe estime cependant que ce débat ne devrait pas occulter les faits graves présentés.
Un tel type de rapport donc cherche particulièrement donc à attirer l'attention des médias, tout sensibiliser la population également donc aux graves violations de droits humains qui ont lieu un peu partout dans le monde et à la situation à Gaza. Amnesty n'est pas la seule à brandir donc la sonnette d'alarme. Elle est dramatique. Ce n'est pas pour rien que la Cour internationale de justice entend la cause qui était amenée devant elle concernant donc la violation de l'État d'Israël sur la Convention pour la prévention des génocides, c'est bien certainement parce qu'on prend au sérieux donc la situation sur le terrain. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, donc il y a une prise de conscience. C'est un peu tard d'une prise de conscience, mais que les États qui sont le mieux positionnés pour faire pression sur l'État israélien agissent. Tout particulièrement, on sait que la destruction des infrastructures civiles dans la bande de Gaza sont particulièrement liées à des fournitures d'armement, d'équipements des États dont le Canada fait partie. Alors, ces rapports donc cherchent à amener la population, les dirigeants, donc à voir les choses peut-être sous un angle différent et surtout de ne pas simplement voir la situation sécuritaire du point de vue donc des victimes ou des familles des victimes donc des attentats du Hamas, mais également donc des millions d'individus qui sont déplacés, qui n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture, qui n'ont pas accès un toit et l'hiver est déjà donc en train de s'installer ou s'est déjà installé dans la région. Donc, c'est une situation sanitaire, humanitaire de la vie de plusieurs, dont Amnesty, donc, peut être associée donc, à une situation de génocide. Alors, faut prendre ce rapport au sérieux.
L'impact de ces rapports et la réaction de la communauté internationale détermineront si ces appels se traduiront par des actions concrètes pour mettre fin au drame humain en cours, a dit Thierry Lapointe, professeur à l'Université de Saint-Boniface, Winnipeg, Gaël Pouilloux, pour IGL.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
D'ouest en est, on se dirige vers les Maritimes où les éditions de la Grande Marée, fondées à Tracadie, au Nouveau-Brunswick, viennent de publier une biographie du père Maurice Leblanc. L'ouvrage est intitulé « Maurice Leblanc, un Acadien ouvert sur le monde ». Maurice Leblanc, qui est décédé en 2021, était né à Pubnico-Ouest, dans un petit village de pêcheurs acadiens situé à 42 km de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Il était le descendant de deux grandes familles, des familles pionnières de cette région d'ailleurs. Le père Maurice Leblanc était profondément attaché à son coin d'Acadie. Alors, l'ouvrage est signé par l'ancien journaliste Marc Poirier. Il a été traduit vers l'anglais par l'historienne Sally Ross. Il est heureusement illustré de nombreuses photos. Ce livre fait honneur donc à ce patriote acadien et à ce grand voyageur qui a influencé, dit-on, toute une génération d'étudiants. Après un an de recherche, l'auteur nous fait découvrir donc ce prêtre et musicien d'une curiosité intellectuelle et d'une énergie sans pareil. Militant acadien, le père Maurice Leblanc a siégé au sein d'innombrables comités et organismes communautaires acadiens. Il a pendant 3 ans d'ailleurs été le président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Daniel Aucoin à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse.
Le père Maurice Leblanc a enseigné 25 ans au Collège de Batters et 17 ans à l'Université Sainte-Anne, tout en y assurant la programmation culturelle et la direction des chorales et des fanfares. Les arts, la culture et l'implication communautaire ont fait partie intégrante de sa vie, même après sa retraite de l'enseignement artistique en 1991. Réal Boudreau, neveu du père Maurice, nous parle de l'importance de cette nouvelle publication. le père Maurice Leblanc, un Acadien ouvert sur le monde.
Je pense que c'était parce que beaucoup de gens ont côtoyé le père Maurice pendant ses 96 ans, mais tous ne l'ont pas eu, ne l'ont pas connu dans le même contexte et à cause des mêmes activités. Il avait été très important, un joueur très important dans les arts et la culture dans le nord-est du Nouveau-Brunswick pendant 25 ans. Puis ensuite, il s'en est revenu ici, dans le sud-ouest. Et il a joué un rôle assez important dans l'art et la culture et aussi dans l'appui de sa communauté catholique religieuse. Comme vous pouvez bien l'imaginer, la distance entre les deux régions fait en sorte qu'il y a des gens qui l'ont connu à certains égards et d'autres à d'autres égards. Et donc, on a pensé pour approcher, pour donner et c'était un homme qui était bien reconnu et qui a accompli certaines choses. Alors, on a pensé que c'était bon de tout mettre ceci ensemble.
L'auteur du livre, Marc Poirier, indique dans son avant-propos qu'il ne connaissait pas du tout le père Maurice Leblanc avant d'entreprendre le projet. On écoute ici l'auteur nous expliquer comment il a bâti la biographie du père Maurice Leblanc.
Ben, premièrement, avec l'aide de Réal et des gens qui se sont joints à lui pour m'accompagner dans tout ça. En partant, ces gens-là avaient déjà une liste de gens qui avaient connu le père Maurice ou qui avaient été étudiants du père Maurice. Et donc, ça a été assez facile là, de contacter plusieurs de ces personnes-là pour avoir des témoignages. Et surtout, ce qui a aidé beaucoup, c'est le fait que le père Maurice avait rédigé un journal pendant une bonne partie de sa vie sur ses activités. Il avait commencé ça en 1956. C'était surtout un carnet de voyage au début, mais à compter des débuts des années 70, c'était un journal, il écrivait tous les jours, jusqu'au matin de sa mort, il a écrit son journal. Alors ça a été une source de renseignements incroyable pour moi, pour aller piger, puis pour faire, c'était un peu comme le film de sa vie, si on veut.
Né à Pubnico-West et descendant de deux grandes familles pionnières du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, le père Maurice Leblanc était profondément attaché à son coin d'Acadie. Durant sa retraite, il s'est engagé dans plusieurs organismes de la région, a assumé la responsabilité de deux paroisses, en plus de se consacrer à la peinture. Le premier lancement du livre aura lieu le 19 janvier à Tuscut, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Un autre lancement est prévu à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, à une date non encore déterminée. Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chitika.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Le maire de la ville de Québec s'impatiente face à l'opposition qui lui reproche son inaction. La récente fermeture de plusieurs commerces dans le quartier de Saint-Roch de Québec continue de faire réagir les élus lors de la rentrée municipale. Le maire de Québec accuse l'opposition de nuire à l'économie du quartier central. Il faut arrêter de faire peur aux gens, Martel Marchand, qui s'est adressé à la presse après le congé des fêtes. C'est que la ville a récemment dévoilé les taux d'inoccupation des locaux commerciaux à travers ces 9 sociétés de développement commercial, ce qu'on appelle les SDC. Pour vous donner une idée, environ un magasin sur 5 est inoccupé dans les secteurs de Saint-Sauveur et du Vieux-Québec. Du côté de Saint-Roch, 13,7% des locaux commerciaux demeurent vides. Heureusement, ce n'est pas pareil partout. Les taux sont meilleurs dans d'autres quartiers. Reste que c'est le centre-ville qui brûle au complet, lance le chef du Parti Québec d'abord, Claude Villeneuve. Les détails avec Alice Zanetta à Québec.
Est-ce qu'on doit trouver des solutions aux enjeux de Saint-Roch? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des enjeux à Saint-Roch? La réponse est oui. Cependant, de dire que Saint-Roch brûle, c'est nuire à Saint-Roch. Parce que c'est pas vrai.
De retour du temps des fêtes, le maire de Québec, Bruno Marchand, a accusé l'opposition officielle de nuire à l'économie de Saint-Roch.
Il y a une limite à exagérer et à faire peur au monde et à faire en sorte que des gens ne s'y rendent plus justement parce qu'on leur a fait peur. Ça aide pas.
Pour rappel, au lendemain de l'annonce de la fermeture du magasin L'Accordé sur Saint-Joseph, le chef de Québec d'abord, Claude Villeneuve, a affirmé que Bruno Marchand regardait Saint-Roch brûler en jouant de la harpe. Devant la presse, lundi, le maire a rétorqué qu'il multipliait les actions pour maintenir la vitalité commerciale de Saint-Roch. En plus des enjeux liés à l'itinérance, le maire de Québec a soutenu que l'achat en ligne contribue aux difficultés des commerces de détail. Des difficultés qui se font sentir aussi ailleurs que dans Saint-Roch. Selon les chiffres dévoilés lundi par la ville, le quartier Saint-Roch compte 13,7% de locaux commerciaux inoccupés. C'est juste devant Montcalm avec 15%, suivi de Saint-Sauveur et le Vieux-Québec qui compte 21% de locaux commerciaux vacants.
Donc, il y a mieux, puis il y a pire. Le but ici, c'est pas de se comparer au pire, mais c'est juste de se dire, attention à toujours dresser un portrait négatif, ça finit par créer un climat qui est très défavorable à l'économie de Saint-Roch. Le but, c'est pas de se consoler ici, c'est pas de se dire, parce qu'il y a des taux d'inoccupation qui sont plus grands, on n'a rien à faire. On a beaucoup à faire, puis vous allez voir, on va faire beaucoup dans les prochaines semaines.
Bruno Marchand croit donc qu'il faut offrir une expérience aux consommateurs. Il a notamment cité l'exemple de la rue Racine, à Loretteville. Il croit aussi que le quartier Saint-Roch a besoin d'un projet, comme l'îlot Dorchester. La ville devrait d'ailleurs se prononcer bientôt sur la forme que prendra cette construction, qui pour le moment comprend près de 400 logements et un hôtel sur 20 étages. Le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve, appelle le maire à reconnaître le problème dans Saint-Roch et à tous se mobiliser pour encourager les commerçants du quartier.
C'est pas Saint-Roch qui brûle, en fait, que c'est les artères commerciales du centre-ville au complet. Dans notre ville où, dit-on, le tourisme va bien et où, dit-on, l'économie va bien, on parle pour Vieux-Québec. Un commerce sur cinq, finalement, qui est vacant. Je veux bien croire qu'il y a une réalité qui touche le commerce au détail. Je veux bien croire qu'il y a des difficultés suivant la pandémie, l'émergence et la domination des plateformes de livraison en ligne. Mais toutes ces données-là, ça existe aussi pour la 3e Avenue et pour Maguire. Et pourtant, ces artères-là se portent bien.
Du côté d'équipe Priorité Québec, le chef non élu, Patrick Paquette, pointe du doigt le manque de stationnement et les taxes.
Je vous dis pas que c'est amplement la faute de Bruno Marchand, ce qui se passe dans Saint-Roch, là. Mais est-ce que le fait d'avoir continué de taxer, de ne pas avoir amené d'incitatifs, de ne pas donner les moyens au SDC?
La chef de Transition Québec, Jackie Smith, appelle à ajouter des logements.
Donc, c'est quoi la clé de renverser cette tendance-là? C'est de resserrer le vis sur le Airbnb et ramener les résidents autour des artères commerciales.
Alice Zanetta pour IGL à Québec.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Et on se tourne du côté de la capitale nationale, Ottawa, où on a d'autres soucis. Oui, évidemment, on parle politique ces temps-ci, mais pas que. Les sports de glisse sont aussi au calendrier, parce qu'à Ottawa, quand le climat le veut bien, le canal Rideau se transforme chaque année en une patinoire naturelle gigantesque de plus de 8 km de long, imaginez. On dit que ce serait la plus grande patinoire naturelle au monde. Et, évidemment, le symbole hivernal de la capitale canadienne. La patinoire du canal Rideau célèbre cette année d'ailleurs sa 55e saison. Après un hiver désastreux en 2023, une saison largement écourtée de seulement imaginer 10 jours en 2024, la patinoire du canal Rideau pourrait rouvrir dès la fin du mois de janvier si tout se passe bien. C'est du moins ce qu'espère Bruce Devine, gestionnaire principal des installations et programmes à la Commission de la capitale nationale. Les températures froides des dernières semaines ont permis aux équipes de la commission de travailler à préparer cette patinoire du canal Rideau. Oui, parce qu'on le fait. On arrose largement pour atteindre l'épaisseur voulue et niveler évidemment la glace. Gabriel Poulin à Ottawa, en Ontario, est en train de démêler ses lacets en vue du jour J. Elle est en compagnie des principaux intéressés.
La patinoire du canal Rideau, emblème hivernal de la capitale, s'apprête à accueillir les patineurs pour sa 55e saison. La patinoire de près de 8 km devrait pouvoir ouvrir d'ici la fin du mois de janvier. Bruce Devine, gestionnaire principal des installations et des programmes à la Commission de la Capitale-Nationale, la CCN, se dit optimiste quant à la saison de patinage cette année.
On a une très belle température. Madame Nature est vraiment au rendez-vous. C'est sûr qu'on est fébrile avec les deux dernières années qu'on vient de vivre, avec le sentiment de revenir à la normale. C'est fun, quoi.
Les récentes températures froides ont permis aux équipes de la CCN de travailler d'arrache-pied pour préparer la glace sur le canal. Depuis quelques semaines, elles procèdent à l'arrosage de l'ensemble de la patinoire, visant une épaisseur de glace de 30 cm.
Avant la période des fêtes, on a eu une période de froid. Alors, on a décidé de tout mettre en branle pour bâtir de la glace. Puis, juste avant le renouveau des fêtes, notre idée, c'était de, si on peut le bâtir le plus possible, puis espérons, selon ce que ça va être, ce renouveau-là, résister. Ce qui fait qu'on va être en avance lorsqu'on va revenir en janvier. Puis, on a tiré un numéro gagnant parce que c'est ça qui s'est passé.
D'une perspective touristique, Jérôme Mius, directeur des affaires publiques à Tourisme Ottawa, souligne l'importance de l'ouverture du canal Rideau pour l'attractivité de la ville.
La patinoire du canal Rideau, c'est la signature touristique hivernale de la ville d'Ottawa. C'est l'attrait touristique principal que les gens à travers le pays, mais aussi à travers le monde, des fois, connaissent. Donc, c'est certain que si on a de confirmation que le canal ouvre, nous, d'office, notre marketing, notre promotion va se tourner vers le canal pour attirer les gens à venir faire l'expérience de la plus longue patinoire au monde.
Il rappelle toutefois qu'avec les défis posés par les changements climatiques, il est nécessaire de diversifier les activités hivernales qui sont offertes dans la capitale. Pour ce qui est de la date exacte d'ouverture de la patinoire du canal Rideau, Bruce Devine suggère aux patineurs de déjà commencer à aiguiser leurs patins. Gabriel Poulin, IGL, Ottawa.
Tous nos journalistes vous attendent sur fréquenceinfo.ca.
Les artistes Raphaël Hensley-Vincent et Héloïse Lamar ont parcouru la Basse-Côte-Nord au Québec et même la Finlande pour peaufiner leur projet de création autour de l'expérience de la cueillette, de l'airelle et de la chicoutée en Basse-Côte-Nord. Elles ont lancé leur projet Fruité en 2023 et reviennent tout juste d'ailleurs d'une résidence artistique au Centre culturel de Lapua, en Finlande. Leur projet va maintenant prendre ses aises et se déployer ici au Québec en deux temps. Il va se transformer en une exposition de photographie, mais aussi en un recueil de poésie documentaire. Raphaël et Héloïse ont, en 2023 et 2024, rassemblé des images et des témoignages des communautés de Tête-à-la-Baleine, Saint-Augustin, Pacoas-Chipi, Blanc-Sablon et Bras-d'Or. On ne parle pas de Labrador, mais bien de Bras-d'Or. Bras-d'Or, c'est pour votre information et la mienne, un des ports les plus sûrs de la Basse-Côte-Nord. Frédéric Lévesque est à Tête-à-la-Baleine au Québec et les a rencontrés.
Mettre en mots et en images l'expérience de la cueillette des petits fruits sur la Basse-Côte-Nord, c'est le projet de création que poursuivent Raphaël Hensley-Vincent et Héloïse Lamar. Le processus des deux artistes collaboratrices a débuté en 2023 et le projet est actuellement en développement. Héloïse nous en parle davantage.
C'est ça, le projet, c'est à la fois un recueil de poésie documentaire puis une exposition sur la cueillette de chicoutée, puis on voulait, à travers cette démarche-là, préserver, dans le fond, une tradition qui existe sur la Basse-Côte-Nord, puis qui est vraiment propre là, au coaster, puis plus largement à la Côte-Nord aussi, là, mais c'est se préserver dans le fond un patrimoine matériel.
Pour ce projet, Héloïse et Raphaël cumulent deux séjours de recherche et création d'environ un mois en Basse-Côte-Nord et plusieurs visites ponctuelles. Raphaël a aussi vécu près d'un an à Tête-à-la-Baleine alors qu'elle travaillait au village. Les différents séjours en Basse-Côte-Nord des deux artistes autour de la cueillette auront surtout été des prétextes pour ouvrir la discussion avec les cueilleurs et les cueilleuses de la région.
Mais pendant ces séjours-là de recherche-création, là, notre processus, c'était vraiment d'aller à la rencontre des cueilleurs-cueilleuses puis de s'asseoir avec eux dans la mousse avec une enregistreuse pour récolter des récits là, sur la cueillette de chicoutée.
Quand on parle de cueillette, on ne parlait pas juste de cueillette avec les gens, on parlait de l'histoire, on parlait de leur enfance, on parlait des îles, on parlait aussi du futur, on parlait des enfants qui partent puis qui reviennent l'été. Fait qu'il y a eu comme aussi tout, je pense que c'est en développement de notre projet sur le long terme, ça avait fait en sorte qu'on pouvait aller vraiment plus comprendre de quoi on parlait, puis plus que juste aller cueillir avec les gens, puis c'est quoi la cueillette pour eux, là. C'était plus leur lien au territoire puis à la Basse-Côte-Nord.
Ces échanges font partie intégrante de la démarche de création des artistes, à savoir la poésie documentaire. Raphaël et Héloïse reviennent d'un mois de résidence dans la ville de Lapua, en Finlande, pour poursuivre leur création.
On était accueillis par le centre culturel de la ville, logés, et on avait accès à un atelier. Puis ça nous a permis, c'est ça, de prendre un peu un recul aussi après, comme ces deux séjours de recherche-création-là, de pouvoir reparcourir les photos, mais surtout de réécouter les entrevues qu'on avait faites. T'sais, on avait finalement rencontré avec nos entrevues, on avait une vingtaine d'entrevues avec des gens de Blanc-Sablon, de Brador. On avait aussi rencontré des cueilleurs-cueilleuses de Pacoachipi cet été. On avait été cueillir sur les îles au large de Saint-Augustin. On avait des cueilleuses-cueilleurs de Saint-Augustin, de Tête-à-la-Baleine aussi. Donc, c'est de se replonger puis réécouter toutes ces entrevues-là qu'on avait réalisées depuis 2 ans.
Le choix de la destination pour cette résidence était réfléchi. La Finlande partage la même culture de la cueillette de petits fruits que la Basse-Côte-Nord, à savoir la cueillette de l'airelle, appelée localement la graine rouge, et celle de la chicoutée.
Là-bas, la graine rouge ne pousse pas de la même manière. T'sais, ici, elle pousse quand même un peu à ras du sol. Là-bas, c'était vraiment plus en petits arbustes, un peu plus haut, grimpant, puis aussi dans des grandes forêts de pins. Il y avait comme un genre de contraste aussi dans ce qu'on voyait. Puis même en allant à l'épicerie, on voyait à quel point c'était imbriqué dans la culture, parce qu'à l'épicerie, il y avait des panneaux où on pouvait décrocher le numéro des gens pour acheter, c'est ça, la denrée. Fait que ça, c'était comme vraiment intéressant de voir les parallèles là, qu'on pouvait faire entre une culture nordique puis une autre.
Ces découvertes des différences et des similarités entre les cultures de la cueillette en Basse-Côte-Nord et en Finlande ont mené à de nouvelles idées pour le projet, nous informe Raphaël.
On s'est rendu compte qu'il y avait comme, je ne sais pas, la question économique de la cueillette, parce que là-bas, il y a des travailleurs migrants temporaires qui viennent pour cueillir la graine rouge l'automne. Puis ça crée aussi toutes sortes aussi de tensions des fois avec les populations qui cueillent, puis que là, c'est dans le fond, ces gens-là sont engagés par des plus grosses compagnies, des grosses épiceries, mettons, pour cueillir. Puis c'est revendu en épicerie. Là, tu peux acheter un sac de graines rouges dans les surgelés à l'épicerie là-bas, sur les grandes surfaces. Fait qu'en tout cas, il y a comme toute cette question-là qui n'est pas du tout présente, je pense, en Basse-Côte-Nord.
Raphaël et Héloïse planchent depuis novembre sur le volet exposition de leur projet. La première exposition aura lieu cette année à cette île au Musée régional de la Côte-Nord, puis l'exposition se déplacera dans la région.
On voit vraiment le projet comme on aimerait vraiment qu'il revienne dans les lieux où il a été créé. Donc, c'est en juin 2026, on prévoit là, une tournée, là, la circulation de l'exposition de photographies, mais aussi dans laquelle il y aura certains bouts des récits là, récoltés sur la Basse-Côte-Nord.
Se replonger là-dedans, ça nous ramène aussi à la Basse-Côte-Nord tout le temps. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est intéressant. On écrivait des petits cahiers pendant qu'on était ici, on écrivait un peu, mais d'écrire avec ce recul-là, ça fait quelque chose. On se disait que c'était intéressant qu'il y ait des choses qui ressortent plus fortes qu'en étant à distance de notre expérience. Puis je pense que de continuer l'écriture, les deux, quand on n'habite plus en Basse-Côte ou qu'on est à distance. Moi, je suis à Rimouski maintenant et là, ils étaient à cette île. Ça a quelque chose aussi d'intéressant.
Alors qu'elles ont pris le temps de réécouter leurs entrevues, Raphaël et Héloïse font le constat que leur projet est surtout révélateur d'un amour pour la Basse-Côte-Nord et des gens qui l'habitent, sans qui le projet ne serait pas possible. Frédéric Lévesque, à Tête à la Baleine, pour l'IGL.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous. Merci à nos nombreux journalistes IGL. Gaël Empoyo, Alice Zanetta, Frédéric Lévesque, Daniel Aucoin et Gabriel Poulain. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa et de l'Initiative de journalisme local. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci à votre radio locale de nous diffuser, de nous donner une voix et à vous d'être là. Écrivez si ça vous tente, radio@fréquenceinfo.ca, c'est tout simple, radio@fréquenceinfo.ca. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!